Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est lundi. On est un lundi férié parmi ceux du mois de mai. Et j'espère que vous en profitez bien. Histoire de bosser tranquillement. Parce qu'on est des freelances. Et que la notion de férié, chez nous, elle signifie juste pas d'argent. Donc ça n'a pas de sens le mot férié pour nous. Mais bon, des fois on a quand même envie de participer un peu et d'être avec les autres qui eux ont le droit à un vrai jour férié payé. Donc voilà. En tout cas pour moi, ça sera pas le cas parce qu'on est à une semaine du lancement de la nouvelle formation rédacteur pro croisée avec la formation WordPress pour rédacteur et que on a déjà la majorité des élèves qui sont inscrits. On a une liste d'attente qui commence aujourd'hui à se remplir. C'est-à-dire les places qui restent en fait sont offertes à moitié prix à une liste d'attente. On va démarrer ça maintenant. J'espère que vous avez reçu le mail qui vous invite à ça. Sinon, inscrivez-vous quand même à notre newsletter. Elle n'est pas si mal, on se donne du mal. Donc voilà. Et donc voilà, aujourd'hui... Je vais pas vous refaire tout le couplet de la pub, je sais que ça peut être un peu ennuyeux, si vous n'êtes pas intéressé. Je peux déjà vous dire par contre qu'on a un onglet ressources sur le site du Cercle des rédacteurs dans lequel vous trouverez des formations gratuites et qui ont en plus une excellente réputation, donc allez y faire un tour parce que c'est du tout bon pour vous. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me semble important. Au début, je me suis dit, est-ce que ça peut vraiment faire... un sujet de podcast, est-ce que ça peut aller loin? Est-ce qu'on peut tenir tout le temps sur ça? Je pense que oui. Je pense que c'est beaucoup plus deep qu'il n'y paraît. Il s'agit de faire des plans. Alors, un rédacteur, quand on lui dit « fais un plan », il se dit tout de suite « ouais, un plan, plan détaillé, quoi. Un plan d'article ou de contenu ou... ». Non. Ici, on parle d'un plan de vie ou d'un plan de carrière. On parle d'un plan de résolution de problèmes. On parle de ce genre de plan. On parle aussi d'un plan de process. On va parler de plan. Parce que y a une règle que je veux vous transmettre le plus possible. Parce qu'à chaque fois que je m'en éloigne, je paye la facture très 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 chère. Et à chaque fois que je m'en rappelle et que je la mets en place, mais d'un coup, ma vie est heureuse. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. La règle est la suivante. Le temps que vous passez à planifier les choses est proportionnellement inverse au temps de souffrance que vous aurez par la suite. En gros, plus vous planifiez les choses... moins vous souffrirez plus tard. Là, par exemple, je suis en train d'écrire la formation rédacteur augmenté. Pour l'instant, c'est une mini-formation. Quand on dit mini-formation, c'est-à-dire que c'est comme un module supplémentaire à notre formation. Elle se greffe sur la grande formation en tant qu'option. Vous pouvez la prendre. Mais elle va faire... elle fait 4 grandes parties et elle a 6 ou 7 chapitres par partie. Donc, c'est pas mini, c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, il faut savoir être exhaustif, il faut transmettre des choses dans cette mini-formation qui, moi, m'interroge. Et ça fait un mois que je réfléchis à ça, un mois. Et dans cette mini-formation, ok, je dois apprendre aux gens à utiliser ChatGPT, mais pas que. C'est-à-dire que ça, c'est la partie... pas intéressante de l'histoire. La partie intéressante, c'est il faut que j'apprenne aux gens tout ce qu'ils peuvent devenir désormais s'ils utilisent ChatGPT. Et là, on est dans de la projection et on doit réfléchir à comment on transmet cette vision enthousiaste de l'avenir. Parce que ChatGPT, c'est compliqué. Donc, comment est-ce que je fais pour que ChatGPT soit présenté de la bonne manière ? D'une manière suffisamment intelligente et complexe pour permettre de nourrir un raisonnement sur lequel je vais poser des rails par la suite. L'idée, il y a une partie seulement qui est comment on écrit des prompts et comment on obtient ce qu'on veut de ChatGPT. S'ensuit, j'ai oublié de le préciser, dans tout le cours général, quand je dis tout le cours général, au cercle des rédacteurs, c'est des choses qui sont ouvertes, enfin c'est offert à tous les membres du cercle. Hein. C'est, tous les contenus sont disponibles pour tous les membres du cercle, systématiquement, peu importe les formations, s'il y a des contenus écrits, ils sont pour tout le monde. Le cours général, c'est 4 grandes parties, 200 pages de cours, 30 heures de vidéo. Voilà. Donc là-dedans, on va rajouter encore des exemples de prompts et des conseils d'utilisation de ChatGPT pour tout le cours. Donc on va avoir la mini-formation qui pose les rails, et après on va avoir le cours général qui va vraiment vous dire, voilà, vous êtes dans la documentation, comment on fait pour utiliser ChatGPT pour performer sur la documentation, comment on fait pour être meilleur grâce à lui, ou alors être plus rapide, ce genre de choses. Donc là-dessus, moi je suis coincé parce que la problématique de cette mini-formation, les enjeux qui sont derrière, là, il s'agit de faire naître un nouveau métier. Il s'agit de renommer quasiment le métier de rédacteur web. Et il s'agit de le faire avec enthousiasme. Donc, il y a énormément d'enjeux. Ben, je me suis retrouvé très paralysé par rapport à ça. Malgré le fait que j'ai des carnets de notes qui sont remplis de ma propre expérience, puisque ça fait depuis le mois de mars, je crois, que je n'écris plus. C'est-à-dire que je ne fais que des prompts. Tout ce que je publie, d'une manière ou d'une autre, excepté des petits commentaires à droite à gauche, c'est produit par ChatGPT, y compris les newsletters que je publie, y compris les posts d'opinion que je mets sur LinkedIn, etc. C'est-à-dire que je m'oblige, étant donné que je suis quelqu'un de naturellement très exigeant, avec moi-même et avec mes contenus et avec ce que je raconte, je m'oblige à obliger ChatGPT à être à mon niveau. Ce qui fait que j'apprends énormément de comment on fait ça et comment on obtient ça. C'est là le grand défi dans l'histoire. Donc, j'apprends comme ça et je prends des notes et je note des choses sur la personnalisation. Sur ce matin, par exemple, j'ai découvert qu'on pouvait demander à ChatGPT de fabriquer ses propres outils. Donc pour le coup, ça c'est hyper intéressant. Donc je lui ai fait faire un condensé de mon style d'écriture selon ses termes et avec son usage. Et je lui ai demandé des échantillons et ça marche extrêmement bien. Donc en fait, maintenant j'ai des petites capsules qu'il a lui-même produites pour lui-même. Donc ça fait que je peux alimenter une banque à laquelle je pourrais faire appel quand j'en aurai besoin. Bonjour. Donc, je continue d'avancer, et toujours en optimisant mon travail, parce que c'est ainsi que je veux fonctionner. Je ne veux pas perdre de temps, je veux que ça soit un avantage, un plus, et j'avoue que je vois énormément de vertus pour l'instant à l'usage de ChatGPT. C'est un peu comme si je n'étais plus seul. C'est-à-dire, vous savez, des fois, vous aimeriez bien poster quelque chose sur un réseau social pour faire votre publicité, mais vous n'osez pas vous vendre. C'est comme ça. C'est pas que vous vous sentez pas légitime, c'est que vous trouvez que c'est indécent de cette manière qu'ont les autres de se vendre, de vendre leurs histoires, de vendre leur âme, en espérant attirer de l'attention. C'est quasiment, vous avez l'impression de faire la mendicité, vous n'êtes pas de ce bord-là. C'est pas de. Vraiment, c'est pas du sentiment d'imposture ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste, vous n'êtes pas là-dedans. Eh bien, ChatGPT, lui, il est là-dedans. Donc, vous pouvez tout à fait lui demander de l'aide par rapport à ça et lui proposer d'écrire pour vous le poste qui vous vend. Et vous serez en face en disant « Oh, il exagère, mais bon, c'est vrai, c'est un peu vrai. Allez, on poste. » Et puis voilà. Et vous allez commencer à avoir ce genre de choses. Moi, j'ai fait un poste, là, enfin, j'ai fait un prompt, pardon, que j'ai vraiment affiné avec le temps pour qu'il ressemble à quelque chose qui me ressemble. Et ce prompt, en fait, il finit par « Voici ce dont je veux parler, deux points. » Et là, généralement, j'utilise l'outil speech-to-text, c'est en gros, vous parlez et ça écrit, qui est fourni dans les appareils Apple de base, et je pense Microsoft Android aussi, mais je connais pas. Sinon, vous trouvez une petite option. Enfin, il y a plein de systèmes qui permettent de faire ça. Google propose ça dans Google Drive. Vous pouvez avoir du speech-to-text de très bonne qualité dans Google Drive. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc je vous donne l'astuce. C'est une option. Vous l'activez, vous parlez, ça écrit. Et donc, ben là, je raconte en gros ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai envie de partager. Des fois, c'est des trucs Enfin, je sais que j'ai fait pas mal de remous en annonçant une décision personnelle, parce que bien sûr, tout le monde projette tout ce qu'il ressent par rapport à ça. La décision, c'était un truc un peu intime, mais que je m'étais dit que ça serait criminel de ne pas le partager. C'est comme ça, hein, c'est ce qui me motive la plupart du temps à partager des trucs bizarres. C'est que je me dis, 90% des gens vont trouver ça bizarre, 10% vont trouver ça vraiment utile, et peut-être même 1% ça va l'impacter et peut-être le sauver de quelque chose. Et donc là, ben, c'est le fait que j'ai confié, alors attention aux préjugés, hein, laissez-moi parler une seconde, j'ai confié à ma mère, à ma pauvre mère, j'ai confié à ma mère le soin de ma santé. C'est-à-dire que c'est elle qui s'occupe de prendre mes rendez-vous médicaux, de faire mes suivis, de décider qui je vais voir, quel spécialiste, etc. Je lui ai confié ça à elle, et c'est dur, hein, parce que ma mère, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup harcelé sur ces questions-là, parce que c'est une anxieuse qui va vraiment toujours se poser des questions. « Ah, mais t'as un petit bouton bizarre dans le dos. » Non, il n'est pas bizarre. « Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller voir un dermato ?» Ah. Et puis sinon, là, tu m'as dit que t'allais pas très bien, que tu dormais pas très bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir un spécialiste ? Est-ce qu'il ne faudrait pas ceci ? Est-ce qu'il ne faudrait pas cela ? Et donc, clairement, je l'ai toujours mis en dehors de ma vie, au niveau santé. Je n'ai jamais voulu qu'elle y touche. Elle est trop envahissante, elle est trop dirigiste. Et puis surtout, elle est trop anxieuse. Je passerai ma vie chez les médecins. Mais j'ai lu une étude, il n'y a pas longtemps, qui montrait que les personnes célibataires dont je fais partie, c'est-à-dire juste qui vivent seules et qui n'ont pas d'enfants, etc., ces personnes-là prennent environ 30 à 40% moins soin d'eux que les gens qui vivent en couple et qui veillent assez naturellement l'un sur l'autre, même... Voilà, peu importe les relations, il y a toujours le fait de veiller un peu sur l'autre et sur sa santé. Donc, si j'étais en couple, j'aurais un suivi de santé qui serait naturel. Parce que ça serait une question qui serait en permanence dans l'actualité et que je traiterais comme telle. Si je suis célibataire, ben je peux me consacrer beaucoup à mon travail, beaucoup à mes loisirs, beaucoup à je sais pas quoi. Personne surveille ce que je mange, personne... Voilà, il n'y a que moi. Donc, pour le coup... ma santé est plus en danger. Au point qu'il y a une différence de mortalité entre des personnes célibataires et des personnes en couple. Mais une différence importante de l'ordre de 15-20%. Donc, ça veut dire que ma vie est en danger. Alors, j'ai essayé. J'ai essayé de consacrer du temps à ma santé. J'ai essayé toutes ces choses-là. Mais au final, j'ai pas le temps. Je veux dire, là, actuellement, en fait, ce qui m'a réveillé par rapport à cette question-là, c'est le fait que j'avais besoin d'un rendez-vous chez un dentiste. J'ai déménagé, donc j'ai changé de dentiste. Et j'ai téléphoné à 14 dentistes. Aucun n'acceptait des nouveaux patients. Et ça m'a pris une matinée entière de téléphoner à tous ces gens. Sans parler de ceux qui voulaient que je les rappelle pour finalement me dire non, ceux qui... me donner un rendez-vous, il y en a un ou deux qui m'ont donné un rendez-vous à 8 mois. Et moi, j'étais inquiet pour une de mes dents, et donc il me fallait une réponse plus rapide. Et c'est là où je me suis dit, en fait, j'ai pas le temps de consacrer de l'énergie à ma santé, et je me connais, je sais que je vais pas le faire. Et je sais que c'est dangereux pour moi. Donc je lui en ai parlé à elle, qui pour elle, ça a été un immense soulagement de pouvoir enfin reprendre la main par rapport à son fils qui fait pas ce qu'il faut. Et donc maintenant... je me retrouve chaque mois avec 3-4 rendez-vous à honorer chez des médecins divers et variés. Elle me fait des parcours médicaux et des trucs. Bon, elle exagère un peu, mais je joue le jeu. Le deal, c'est que je ne dis jamais non. Et c'est la contrepartie qu'elle m'a demandé. Elle m'a dit, d'accord, je m'occupe de toi, mais tu ne dis jamais non. Et donc, elle téléphone à toutes ses copines, elle se débrouille pour trouver des rendez-vous, je rencontre des médecins, des dentistes, des dermatos, fantastiques, des gens qui travaillent extrêmement bien, qui en plus sont contents parce que ils ont été recommandés, etc. Donc, ça, voilà. Alors, je vous ai fait une énorme parenthèse parce que je crois, encore une fois, que peut-être ça va parler à certains d'entre vous, que vous n'êtes pas obligé de choisir votre mère. Vous pouvez choisir un ami célibataire, une amie célibataire qui elle-même est dans le même cas et où vous allez veiller l'un sur l'autre au niveau santé. Ça sous-entend aussi de parler de son intime au niveau médical. Je vous laisse décider, mais en tout cas, sachez que seul, si vous gérez les choses seul, ben vous avez 30% de chances de crever avant les autres. Donc, si vous aimez un tout petit peu la vie, let's go! Voilà, mais en tout cas, pour revenir un peu à mon sujet, ben j'ai un prompt qui fait que j'explique tout ça à ChatGPT, j'appuie sur un bouton et il me produit un super post qui commençait par... je me souviens plus, mais c'était très drôle. Si j'avais su que j'aurais demandé ça à ma pauvre mère, un truc comme ça, la phrase hyper choquante. Et donc voilà, mais il y a des gens qui ont mal réagi à ça, qui m'ont fait des reproches en disant que j'alourdissais la charge mentale de ma pauvre mère. Enfin, des gens qui projetaient tout et n'importe quoi dessus. Ma mère, elle s'éclate avec ça, hein. Je veux dire, elle est à la retraite. Pour elle, c'est génial de pouvoir s'occuper de ses enfants. Donc c'est juste un deal que les gens ne comprennent pas forcément, mais c'est pas grave. En tout cas, j'aurais jamais pensé de moi-même avoir le courage ou la capacité d'écrire un tel post et m'exposer ainsi. Mais si j'en parle à ChatGPT et que lui me produit le post, bah là ça va beaucoup mieux, donc je peux produire beaucoup plus. Si j'étais un peu plus raisonnable, un peu plus organisé, je produirais un post par jour comme ça. Parce que ça irait très vite, en une après-midi. Avec ChatGPT, je peux faire des posts pour le mois entier, voire même les programmer par avance. Et après, ça sort tout seul, et puis moi, je pars en vacances. Bon, c'est pas le raisonnement d'un réseau social, je comprends. Mais en tout cas, on peut envisager ce genre de choses. Donc moi, je suis dans ce travail-là d'essayer d'expérimenter la vie avec ChatGPT, de voir ce qui se passe, notamment d'un point de vue intérieur, pour pouvoir le transmettre. Parce que l'idée, c'est pas de dire aux gens « Oui, tu peux faire un plan détaillé en cliquant sur 3 boutons. » Ça, c'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est « Oui, ça va te motiver davantage, ça va te donner davantage confiance, tu vas pouvoir avoir une vision différente, moins de pression, une charge mentale différente, une capacité de production supplémentaire, parce que juste ChatGPT va t'alléger la vie. Et tu vas ressentir cet allègement. Donc, il va se passer quelque chose. » Alors. Ça, tout ce que je viens de vous raconter est sans doute intéressant pour les uns et les autres, mais on est un peu loin du sujet. Faire des plans. Mais en même temps, on n'est pas si loin que ça. Parce qu'il faut bien comprendre que quand j'ai pris mon abonnement pour ChatGPT, j'ai décidé de n'utiliser que lui pour écrire, afin d'apprendre. Afin de comprendre, afin d'expérimenter, afin de transmettre. Donc, mon plan a commencé à cet instant-là, il y a déjà quelques mois. Et je suis dans mon plan. C'est-à-dire, j'ai la discipline suffisante de ne pas écrire moi-même les choses et de toujours demander à ChatGPT de le faire. Et donc, d'affiner mes techniques, mes méthodes pour réussir à avoir rapidement un résultat qui me satisfait. Il y a des jours... Au bout de 3 heures, je laisse tomber parce que j'arrive pas à lui faire faire ce que je veux. Or, je pourrais le faire moi-même, ça serait rapide. Mais non, je suis frustré parce que c'est lui qui doit le faire, pas moi. Donc, j'ai un plan. J'ai un plan et j'ai une discipline. Et on arrive aujourd'hui au moment où j'écris justement cette formation et où j'ai commencé à travailler avec lui en disant « Comment toi tu vois la formation ?» Et il m'a proposé un truc... Ça semblait bien, un truc bien organisé, bien scolaire. Et puis je me suis dit, mais il manque l'essentiel, il manque le spirit. Il manque le fait de pouvoir comprendre réellement pourquoi ça change quelque chose d'inclure ça dans sa vie. Le pourquoi n'y est pas. Il est passé à côté. Et ça veut dire que tout le travail que j'avais fait avec lui, je l'ai jeté à la poubelle. Parce que non, il n'est pas suffisant en tant qu'esprit, ou en tant qu'intelligence, il n'est pas suffisant pour se projeter dans la relation que je veux avec mes élèves et pour pouvoir la représenter. Et lui donner le corps qu'il faut et l'interaction qu'il faut. Donc il y a encore besoin de moi. Et donc j'ai repris tout le travail que j'ai redéfini autrement. Et puis après, je ne savais plus comment raconter les choses. Je ne savais pas comment le solliciter lui parce que j'avais peur qu'il ne soit pas suffisamment bon. Donc hier, en désespoir quasiment, j'ai fini par me dire, en fait, il faut retourner à un autre plan. Et mon autre plan, c'était, je vais enregistrer en audio toutes les idées que j'ai pour chacune des pages, et je vais utiliser un autre outil qui utilise ChatGPT, qui s'appelle MacWhisper, ou Whisper tout court, qui est donc une des fonctions d'OpenAI, qui comprend extrêmement bien le speech-to-text. Et donc, je lui ai donné tous les audios que j'avais fait, que j'ai fait lors de balades en racontant un peu ma life, et il me les a reproduits, et aujourd'hui, je vais lui redonner avec plus de contexte et plus de matière pour qu'il produise des cours à partir de là. Donc, c'est artisanal, ça fonctionne par étapes, il y a un plan. Le but de tout ça, c'est d'arriver à un moment donné à avoir un cours de rédacteur augmenté, convaincre les membres du cercle du bien fondé de ce raisonnement et de la pratique qui peut en suivre, pour après proposer une formation de spécialisation dans laquelle pendant un mois on va bosser avec ChatGPT, je vais essayer d'amener les gens au niveau où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment en capacité de faire à ChatGPT à peu près tout ce que je veux au niveau que je veux, à peu de choses près. Je ne sais pas encore si je suis capable de lui faire faire un livre entier, mais j'y réfléchis parce que j'ai de la matière pour ça, suite à une formation précédente qui était une formation narrative qui se passait au XVIIIe siècle sur des bateaux pirates. Je vous passe un peu les détails, mais en tout cas, il y a une fantastique histoire et un fantastique univers, et je pourrais peut-être envisager d'écrire des nouvelles, produire des nouvelles de cet univers-là pour pouvoir après le faire revivre au travers d'autres choses. Mon grand rêve dans la vie, c'est de faire des formations narratives à chaque fois qui racontent des morceaux d'histoire et qui soient toujours intéressants, mais bon, quelque part, la vie, c'est sérieux, hein, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais peut-être qu'un de ces jours, je vais pouvoir faire ça, en tout cas, j'ai ce plan-là en tête. Donc, je résume un petit peu, au bout de 20 minutes quand même, mon propos de base. Il faut avoir un plan si vous voulez aller quelque part. ChatGPT, vous pouvez toujours l'allumer de temps en temps, tester 2-3 conneries dedans, vous dire ouais, je suis pas satisfait du résultat et passer à autre chose. C'est la même chose que si vous décidez de faire du sport et que vous marchez une fois, puis vous revenez, vous êtes fatigué, le lendemain vous avez la flemme, vous le faites pas. Ou si vous voulez faire un régime et que ben, pendant une semaine vous mangez de la salade et du riz, et puis le dimanche on vous invite à un barbecue et puis ça y est, c'est reparti. Et le lundi c'est oh, j'ai la flemme. Ou alors voire même vous avez oublié que vous étiez au régime et puis vous reprenez les choses. C'est toujours la même chose. La motivation vous oblige à faire des grands pas. D'accord ? C'est vraiment quelque chose, c'est comme si vous deviez faire des sauts d'1m50 à chaque fois. La motivation, c'est vous prenez de l'élan et puis vous faites un saut d'1m50. C'est très bien, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, ben, ça ne marche plus parce qu'il y a plein de choses qui abîment votre motivation. Moi, par exemple, je dors pas très bien. C'est comme ça. Je dors pas mal, hein, je fais pas d'insomnie ou ce genre de choses, mais je dors pas très bien. Je dors entre 5 heures et 6 heures par nuit, alors que je devrais être plus aux alentours de 7 heures normalement. C'est comme ça, je me réveille à 5 heures du matin, quasiment tous les jours. Et j'essaye de faire ma journée à partir de là. Mais le problème, c'est qu'on démarre avec une moitié de cerveau. Donc on a du mal à se concentrer, et donc on n'y arrive pas forcément. On n'est pas motivé, on n'est vraiment pas motivé, donc la motivation c'est super difficile, etc. Alors, dans l'idée d'avoir un plan et d'être audacieux dans la vie, en novembre 2019, 2019, j'ai fait le choix d'adopter Oli, mon chien, que vous connaissez parce que vous écoutez mes podcasts et que vous m'entendez régulièrement la pourrir. Oli est un adorable chien qui obéit très bien, qui est très gentil, qui est douce, qui est un peu craintif des gens, mais qui n'embête jamais personne, qui chasse un petit peu quand même. Là, on est sur des terres de chasse d'ailleurs, donc il faut que je la surveille parce que des fois, elle part comme une balle et je ne la revois pas pendant une demi-heure. Mais voilà, c'est un chien, c'est un croisé Jack Russell et Chihuahua. C'est un chien que j'ai récupéré à la SPA, qui était traumatisé des aboiements des autres chiens. Parce qu'au début, je voulais un labrador. Je me suis dit, je veux un grand chien. Je suis un homme, j'ai des poils, donc je veux un grand chien. Et finalement, le labrador que je voulais, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Donc, je suis tombé sur Oli et je me suis dit, bah, elle n'a pas l'air bien. Moi, j'ai de la place chez moi. Faisons ça. C'est mieux de donner ma place à un chien qui en a vraiment besoin, plutôt que de la donner à un chien dont l'esthétique ou la... Enfin, je sais pas quoi. C'est... On peut, hein. Moi, c'est pas mon raisonnement. Sur le moment, je me suis dit que c'était une bonne idée, et c'est... je regrette absolument pas, parce que c'est un chien adorable. Mais, pour le coup, Oli est rentré dans ma vie parce que j'avais besoin de marcher. Je vous le dis, hein, honnêtement, marcher, ça jouait sur mon moral, ça jouait sur ma santé, ça jouait sur... ma sécurité aussi, de ma santé dans le temps, ça jouait sur une certaine diversité, un besoin de sortir que j'avais et que j'avais la flemme d'agir. Donc Oli est arrivé comme une discipline, parce que je vis dans un appartement à quelques étages de haut, donc il n'y a pas de toilette pour elle, donc elle doit sortir 3 fois par jour. À partir de là, ça a créé tout un nouveau monde dans lequel, par exemple, ce podcast est né, parce que marcher avec Oli pendant 1 heure et écouter des podcasts ou écouter de la musique, c'est bien, mais pour le coup, j'ai eu envie de produire, parce que moi, quand je marche, ça m'oxygène, ça me fait réfléchir, j'ai plein de pensées qui se bousculent, donc pour le coup, je me suis dit, mais c'est une super idée, en fait, d'enregistrer, si c'est possible, à partir de mon téléphone, un podcast à destination de qui voudra. Voilà, c'est vous participer à ma balade. Si vous vous baladiez pour de vrai avec moi, on aurait ce genre de discussion, très probablement. Donc, j'avance de cette manière-là. Et je sais d'ailleurs que certaines personnes qui promènent leur chien aussi pendant 1 heure chaque jour aiment beaucoup écouter mon podcast. Ça leur donne une compagnie. Et j'adore ça. Je vous salue. Et voilà. Donc, il y a une différence entre la motivation et la discipline. Et beaucoup trop de gens se reposent sur la motivation. Quand je serai motivé, je ferai ça. Non. Les gens qui écrivent des grands livres, des livres très célèbres et très importants, des gens qui ont du succès en littérature, c'est des gens qui ont la discipline d'écrire 3 à 4 heures par jour. Et encore quand c'est pas plus. Et je sais pas, Amélie Nothomb, elle se lève à 6 heures du matin et elle écrit de 6 heures à midi, si je me trompe pas. Et après, elle fait ses journées. Ça fait qu'une fois par an, elle peut sortir un bouquin. Elle en a écrit plusieurs dans l'année, mais en tout cas, elle peut en sortir une fois par an, qui a été suffisamment travaillé, retravaillé, qui a eu suffisamment de temps qui lui ont été consacrés pour être bon. Les gens qui réussissent ont de la discipline, pas de la motivation. La motivation, ça s'en va. D'accord ? Vous voulez avoir des relations sociales avec les gens ? Eh bien, à la place d'avoir de la motivation en vous disant « je les appellerai quand j'aurai envie », ayez de la discipline, qui est de dire « je vais programmer dans mon agenda les moments où je vais appeler les gens. Je vais, par exemple, prendre des nouvelles de cette personne 1 fois par mois. Et je vais choisir la date arbitrairement, et ça va être programmé, je vais m'y tenir. » Et ainsi, vous développez une relation sociale. C'est facile quand on était à l'école. D'accord, la motivation, elle était simple. On était obligé de se voir tous les jours. Donc forcément, c'est facile d'avoir de la motivation. J'entends mon chien, j'aimerais bien me remettre en route, mais je crois qu'elle est partie de la zone. Je suis assis sur un tronc d'arbre à vous parler, et j'attends de la voir revenir pour pouvoir reprendre mon chemin. Enfin bref, donc, quand on était à l'école, on avait de la motivation. Quand on était à la fac, on avait de la motivation. Quand on était salarié dans des bureaux avec des collègues, on avait de la motivation, puisqu'on les voyait tous les jours. Mais bizarrement, déjà, on ne voyait plus nos copains de l'école quand on était à la fac, on ne voyait plus nos copains de fac quand on était salarié. Aujourd'hui, on est freelance, on ne voit plus personne. Il y a cette vidéo que j'ai croisée à un moment donné sur Instagram qui m'avait rendu fou. C'était un mec dans la rue qui interrogeait une femme, une très jolie jeune femme blonde qui avait l'air un peu mal dans sa peau, je savais pas trop ce qu'elle avait. Il lui tend et il dit « Est-ce que t'es heureux dans la vie ?» Et la femme, elle répond « Non ». Il dit « D'accord, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et elle dit « Ouais, je fais un travail, je suis chez moi, dans une pièce, je suis seul, et je travaille sur un ordinateur, et je suis freelance, et je suis triste. » Et ça m'a déchiré le cœur. Parce que c'est vrai qu'on ressent tous ça en tant que freelance. Des fois, on aurait bien envie de compagnie. Alors, on peut en créer, encore une fois, de la discipline. Je prends ma décision, je fais un plan, j'applique mon plan. Et j'ai la discipline d'appliquer mon plan. Je vais passer du temps à réaliser ma planification. Je vais dire, par exemple, ben moi, je ne sais pas, par exemple, pour résoudre ça, j'ai déjà été dans des centres de coworking, beaucoup d'entre vous sans doute aussi. J'ai aussi trouvé des freelances avec qui je m'entendais bien dans ma ville et j'allais bosser chez eux, puisqu'on a des ordinateurs portables, donc c'est cool. Je lui dis, hey, t'as pas un bureau ? Je viens. Et puis comme ça, on passe quelques heures à bosser ensemble, ça nous stimule, et puis on se boira des coups, et puis on ira se balader, et puis j'en sais rien. Donc c'était vachement cool. J'ai fait ça avec une amie pendant quelques mois, c'était super. Je voyageais aussi. Je travaillais que le matin et l'après-midi, je sortais, ce qui faisait que ça me nourrissait un petit peu mon envie de voir du monde et de vivre des choses. Et ça, c'était super aussi. Ça, c'est une super discipline. Le fait de dire tous les matins, je travaille pendant 4 heures avec une méthode de travail lourde, c'est-à-dire en utilisant le deep flow, par exemple, qui demande de la discipline aussi, en utilisant des capsules, qui sont donc des sessions de 25 minutes de travail. Alors on me dit, ouais, c'est Pomodoro, mais en version optimisée. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 8 fois dans la journée, vous avez travaillé 4 heures, mais bon Dieu, qu'est-ce que vous avez bien bossé. C'est pas la même donne hein, que le fait de rester pendant 8 heures devant un écran, dont 4 heures devant Facebook. Donc, même chose, dans la discipline, toujours, je viens de passer mon téléphone en noir et blanc. Alors, il y a des gens qui vont reconnaître la chaîne YouTube de Léo Duff qui sort des vidéos là-dessus. Donc, Duff, D-U-F et Léo, L-E-O. C'est vrai. Il a décidé de sortir des choses à propos du hacking par rapport à toutes ces choses qui cassent notre motivation. Et je trouve ça très pertinent. Et le coup du téléphone noir et blanc, ben, je me rends compte que ça a un impact massif. C'est-à-dire que vraiment, il ne m'intéresse plus depuis qu'il est en noir et blanc. Et pour le coup, je redécouvre d'autres plaisirs. Je lis, j'écoute des podcasts, je passe des coups de fil beaucoup plus facilement, beaucoup plus perso. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien. C'est bien que ça s'arrête, ce truc-là. Donc voilà. Et il faut de la discipline pour ça. J'ai un bouton qui me permet de passer le téléphone en noir et blanc ou de le passer en couleur. Je choisis les moments où il passe en couleur et donc où il redevient attractif, chatoyant et où il m'hypnotise de nouveau. Et quand je le passe en noir et blanc, il perd tout son mojo. Et ça, c'est bien. Voilà, ce qui fait que je peux continuer d'avancer. Et je trouve que la vie devient plus intéressante quand on commence à faire preuve de discipline. Parce que un plan plus de la discipline, ça vous permet de réaliser réellement tous vos souhaits. Je vois ça notamment avec Isika, qui est la formation de rédacteur web communicant pour Madagascar. On a fait une formation spéciale qui est au même niveau que les autres formations qu'on propose, mais qui a une autre configuration qui lui a permis de baisser ses coûts et de permettre à plus de gens d'en profiter. Donc Isika fonctionne bien. Les gens suivent les masterclass. Il y a une fois par mois une masterclass sur un sujet très précis, très pointu. Les mentorats, le dernier, il m'a pris 1h30 pour répondre aux questions de tout le monde. Donc c'est super, ça marche très très bien. Les gens sont ravis de ça. Et les cours, les gens les suivent. Après, il y a des exercices à faire tous les mois. Et là, je vois que en fait, la majorité des gens ne font pas les exercices. Et je vois qu'en fait, les gens attendent de la motivation. Ils ne se sentent pas motivés. Ce qui pourrait les motiver, c'est par exemple qu'il y ait une fin à Isika. Moi, je suis dans un raisonnement philosophique au niveau des cours qui est qu'on est des perpétuels apprenants. Donc, quelque part, on se cultive. Et donc, pour moi, je ne me rendais pas compte que je faisais de la discipline en faisant ça. Mais c'est vrai que moi, quand je suis sur YouTube, alors j'ai YouTube sur la télé, et c'est vraiment un canal que j'utilise beaucoup parce que je ne regarde pas la télévision. Donc j'ai les séries, les documentaires, les films, les dessins animés, les je sais pas quoi, hein, tous les trucs qui sont sur les plateformes. En termes de plateformes, j'ai Apple TV+, qui est vraiment ma cave à vin. C'est-à-dire vraiment, quand je vais regarder des trucs là-dessus, je me régale. J'ai pas Netflix, j'ai Amazon Prime, parce que ben, Amazon, j'ai le forfait. Et donc j'ai ce truc-là. Et puis, il y en a un troisième. Je l'ai plus en tête. Bref. Si ça se trouve, j'ai que ces deux-là. Je crois que j'ai que ces deux-là. Et donc, il y a YouTube aussi. Et YouTube, ben, il y a des trucs qui m'intéressent. Mais à chaque fois, en fait, je me rends compte que je vais vers des choses qui me permettent de construire mieux mon raisonnement et d'améliorer les choses. Donc, c'est une motivation à s'améliorer. C'est comme si vous pouviez regarder des formations sur Udemy qui sont hyper intéressantes, ce qui n'est pas toujours le cas chez Udemy, c'est dommage. et pouvoir ainsi vous instruire tous les jours de votre petite dose de connaissances, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui relève de la motivation que je pourrais arrêter en me disant « Ah, je préfère regarder des trucs bêtes, voilà, et pas des machins comme ça. » Ok, mais maintenant, je peux aussi inverser les choses et avoir de la discipline. La discipline pourrait être, écoutez-moi, hein, parce que c'est pas compliqué dans la vie, hein, tous les jours, pendant une heure, je m'instruis sur mon métier. Donc, je prends des formations sur Udemy à 10 balles, ou je repère des tutos sur YouTube qui m'intéressent. Là, il y a les tutos de Notion, notamment, que les gens d'Issica se partagent, qui sont vachement bien. Pour le coup, chaque jour pendant une heure, je vais augmenter un petit peu mes connaissances sur un sujet. Et ainsi de suite. Avancez. Parce que si vous voulez apprendre des choses, il vous faut d'abord de la culture, puis du savoir, puis des savoir-faire, puis des techniques, dans cet ordre-là. Donc la culture, c'est la première étape, c'est la plus rigolote, c'est-à-dire vous commencez à regarder des vidéos sur YouTube, de témoignages, de machins, vous écoutez les uns les autres, vous suivez des comptes sur les réseaux sociaux de gens qui parlent de cette culture-là, qui vous montrent à quoi ça ressemble pour de vrai, et puis vous vous en nourrissez, et puis vous entendez les choses, etc. Et après, vous allez sur les savoirs avec des formations, vous allez sur les savoir-faire avec des techniques et des entraînements, etc. Puis les méthodes, puis les techniques et compagnie. Bon, ben, si vous faites ça, vous allez, avec de la discipline, progresser très rapidement. Et ça, je vous le souhaite. Peu importe ce que vous voulez faire. Si vous voulez devenir nomade digital, vous commencez par la culture du nomade digital, puis les savoirs géopolitiques, géographiques, les techniques de voyage, les machins, tous les grands principes des voyageurs, le mode de vie des voyageurs, etc. Puis après, vous allez étudier les différents moyens de transport, l'organisation, les applications qu'il vous faut, puis les techniques, comment est-ce que je fais mon sac, etc. etc. Puis vous aurez tout. Chaque jour, une heure, et votre libération est garantie. Réellement garantie. Vous irez vers ce que vous voulez. Si vous voulez devenir un meilleur rédacteur web, eh ben, vous faites pareil. Vous commencez par lire des livres de Seth Godin. Tous les jours, une heure, vous coupez tous les réseaux, vous vous isolez et vous lisez du Seth Godin, parce que Seth Godin, c'est la culture du marketing. Il n'y a pas que lui, mais c'est au moins un théoricien, c'est-à-dire qu'il va au moins vous raconter le raisonnement des marketeurs. C'est ça le plus important à entendre. Vous pouvez aussi regarder des films comme R, qui est sorti là il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas si je regarderai, qui parle des Air Jordan, pardon, qui sont les chaussures des années 90 qui ont fait un carton, tout ça, ben, vous pouvez vous inspirer ça. Ou alors le fondateur, qui est l'histoire de McDonald's. Ou alors le social network, qui est l'histoire de Facebook. Et vous pouvez comme ça déjà vous bâtir une certaine culture du marketing, de l'entrepreneuriat, etc. Vous pouvez lire des biographies, vous pouvez vous nourrir de ces choses-là avant de rentrer dans les savoirs, les savoir-faire, les techniques. Mais il vous faut un plan, d'accord ? Si vous vous posez à un moment donné avec l'objectif de devenir un meilleur freelance, vous pouvez décider, faire un plan et dire « Ok, pendant chaque jour, pendant 2 mois, je vais lire tel livre, tel livre, tel livre, je les référence, je les choisis d'avance ». C'est fait. Je vais choisir un certain nombre de pages à lire. J'utilise une application. Il y en a plein. Celle d'Apple de base le fait, mais je pense que toutes les applications le font, qui compte le nombre de pages et qui vous permettent de fixer des objectifs chaque jour. Encore une fois, on se mobilise. Donc, par exemple, vous marquez chaque jour, je vais lire 30 pages. 30. Chaque jour, 30 pages. Et vous lisez, vous lisez, vous lisez. À un moment donné, ting, vous avez un petit signal qui dit c'est bon, c'est fait. Hop, on passe à la suite. Un plan. Très rapidement, il va se passer des choses en vous. Très rapidement, des nouvelles constructions arrivent. Et là, vous reprenez le plan et vous le modifiez et vous l'améliorez. Vous vous disciplinez. Vous ne cherchez pas la motivation en disant « si le livre ne me plaît pas, je ne le lis pas ». Non, un plan, de la discipline. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point ces choses-là sont puissantes. On parlait des régimes tout à l'heure. Vous pensez quoi ? Qu'il faut vous motiver à chaque repas ? À chaque repas, vous êtes là, « Non, il faut que je sois plus mince, il faut que je sois plus mince, ah là là, je suis trop gros, trop grosse, il faut que je sois plus mince. » Ça ne marche pas. Laissez tomber, parce qu'il y a certains jours, vous vous détestez pour une raison ou une autre, quelqu'un vous a mal parlé, vous ne vous sentez pas bien, vous avez envie de vous punir, et en même temps de vous réconforter, ben, punition plus réconfort, quand on parle de bouffe, ça s'appelle pizza. Hein. Donc voilà, et puis vous démarrez là-dessus. Et je laisse passer quelqu'un. Bonjour. Et donc, vous pouvez réussir si vous commencez à faire un plan. Le plan, alors si je prends l'exemple de... comment est-ce qu'il s'appelle ? C'était la grande époque de Thibaut InShape, où il annonçait à tout le monde « Ah, mon chien est là ! Oli, t'es là ! On va pouvoir se mettre en route !» Thibaut InShape faisait l'apologie de son régime alimentaire qui reposait sur deux ingrédients que vous connaissez peut-être, du riz et de la dinde. Il appelait ça le riz dinde. Voilà. Et le riz dinde est super intéressant. Parce que c'est justement extrêmement léger, pas gras, donc on peut perdre du poids avec, c'est bourratif, léger, c'est bourratif, et puis vous pouvez manger autant de légumes vapeur à côté que vous voulez, donc c'est un peu drastique, hein. Mais ça reposait aussi sur ce qu'on appelait le cheat meal. Il en a fait quelques vidéos, et j'avoue qu'au début ça m'amusait, puis à un moment j'ai failli vomir, donc je ne l'ai pas fait, j'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout, mais en gros le cheat meal c'est vraiment... Au niveau organique, ça pose pas de problème. Votre corps ne peut pas subir un stress permanent de restriction. Donc, il y a des moments où vous pouvez, mais sur un seul repas dans la semaine, vous lâcher comme une brute. Mais vraiment, genre manger trois pizzas si vous voulez, ça ne dérange pas. Mais une fois dans la semaine, ce qui fait que psychologiquement, vous arrivez à tenir la discipline. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Mais pour le coup, là, vous avez des résultats. Ou alors, vous décidez de faire un rééquilibrage alimentaire et vous allez voir un nutritionniste qui va vous dire, ok, on va commencer doucement, vous allez rentrer dans tel truc, ce produit-là, vous l'arrêtez, vous le remplacez par celui-là et vous créez des habitudes. Mais pour ça, il faut de la discipline, encore une fois. Mais là, vous avez tout ce que vous voulez. Là, vous perdez votre poids. Là, vous décidez, par exemple, dans votre plan, que vous allez faire un marathon de 41 km dans un an. Et là, actuellement, vous êtes en surpoids. Eh bien, faites un plan. Faites un plan avec des objectifs. Premier mois, je perds 2 kilos. Deuxième mois, je perds 4 kilos. Troisième mois, 4 kilos, etc. Et parallèlement à ça, je commence à faire du sport. Mais attention, pas un sport qui muscle, mais un sport qui dépense. Parce que si je commence à faire du muscle pendant que j'essaye de faire un régime, eh ben, je vais transformer le gras en muscle, en gros. Et donc, je vais rester physiquement gros. Mais ça sera que du muscle. Mais ce sera gros. Donc il faut d'abord que je perde toute la masse graisseuse pour après fabriquer du muscle sur la surface qu'il y a. Donc avec des bons conseils, je peux réussir à aller plus loin. Mais en gros, c'est ça. Arrêtez de croire à votre motivation. Vous n'en avez pas. Pas de manière constante. Personne n'en a de manière constante. Les gens qui en ont de manière constante, c'est des gens qui utilisent la discipline. Par exemple, tous les matins, je me lève. Alors, pas moi, mais moi, je me lève et puis je marche avec le chien pendant 4 km. C'est pas mal. Mais il y a des gens, ils se lèvent, ils courent. Je viens de croiser une femme, là. Elle a environ 60 ans. J'espère, sinon je viens de l'insulter. Et cette femme est en train de faire son footing, le même circuit que moi, 4 km. Et elle fait ça tranquillement, a priori, tous les matins. Bon. Ça a quoi comme impact ? Ben, vous revenez, vous avez plus d'énergie, votre corps est bien réveillé. Quand vous mangez, c'est beaucoup mieux assimilé. Vous digérez beaucoup mieux. Et puis, vous avez le moral qui est bien meilleur, parce que c'est prouvé, et j'ai pas besoin de vous le dire, mais le fait d'être en nature et le fait de faire du sport et le fait de s'oxygéner, en fait, a un effet extrêmement bénéfique sur l'humeur. C'est vraiment une excellente manière d'assainir ses pensées un peu moroses ou sa perte de motivation, sa fatigue, sa lassitude. Ça redynamise le tout. Donc pour le coup, vous avez après de l'énergie pour appliquer le reste des disciplines. Mais en gros, c'est ça. Vous voulez faire une formation, ayez de la discipline. Premier mois, je maîtrise ça. Deuxième mois, je maîtrise ça. Vous voulez vous auto-former. Vous voulez vous auto-former. Voilà un conseil très simple. Vous dites, ok, je vais me poser pendant 2 heures ce matin et je vais faire un plan. Qu'est-ce que j'ai besoin de lire ? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? Quelle expérience j'ai besoin de vivre ? Quelle vidéo j'ai besoin de regarder ? Qui j'ai besoin d'écouter ? Qui peut me garder en motivation ? Je suis désolé, il y a du vent d'un coup, alors peut-être que le son va changer. Mais qui va me permettre d'aller au bout de ce projet-là, et voilà, je vais rassembler tous les éléments qui me permettent la progression. Et c'est assez simple. Oh là là, quel vent! Et c'est assez simple de repérer ça. Il suffit de se dire, en regardant la liste que vous avez faite, votre plan, si je fais tout ça, qui je suis à l'après? Est-ce que je suis complet, selon moi? Après, il y a aussi un élément important à intégrer dans le plan. Je sais que je le dis un peu tardivement dans ce podcast. Mais il y a un élément très important à garder dans le plan, qui est de remettre le plan en question. Et ça, il vous faut une date anniversaire. Par exemple, tous les mois, une fois par mois, je réinterroge le plan. Pourquoi ? Parce que j'ai évolué. Ce plan me fait évoluer. Donc bien sûr que ma vision change aussi. Bien sûr que je comprends les choses différemment maintenant. Bien sûr que je me rends compte que le bouquin là de telle personne, eh ben, ça sert à rien de le lire parce que cette personne est décriée, elle est critiquée et on estime que c'est de la perte de temps et que moi je veux pas aller vers ça. Ou alors, bien sûr qu'il faut que je lise cette personne justement parce que elle est décriée et que pour ma propre culture c'est important d'avoir une multiplicité de points de vue. Et je l'avais écartée au début parce qu'on m'avait dit que c'est de la merde, mais finalement je la rentre quand même parce que elle m'intéresse du fait qu'elle développe des nouveaux points de vue. Ça. C'est ça ce dont vous avez besoin, c'est de vous poser et d'être motivé juste le temps du plan. Et après, de rentrer dans la discipline. C'est pas douloureux, c'est très agréable. Vous pouvez vous inspirer aussi des techniques d'organisation, de management, en confiant à quelqu'un d'autre le soin de garder votre discipline. Donc, par exemple, quelqu'un qui, un ami, une amie, un conjoint, une conjointe, un parent, j'en sais rien, quelqu'un qui doit checker avec vous le fait que vous gardez la discipline. Et pour ça, il y a des applications toutes bêtes hein, de synchronisation. Sur Apple, ça va s'appeler Apple Note, tout simplement, où on va avoir une note en commun avec quelqu'un d'autre. Et puis là-dedans, vous mettez une liste à puces et vous checkez à chaque fois que vous avez fait quelque chose. Ce qui fait que vous savez que l'autre peut regarder cette liste à puces et peut vous interroger. Et vous avez donné l'autorité à l'autre, souvenez-vous de ma mère, hein. Vous avez donné l'autorité à l'autre de prendre les décisions pour vous, de surveiller les choses pour vous. Aujourd'hui, moi, si je ne suis pas discipliné concernant ma santé, je me fais allumer par ma mère. Donc, ça me permet de rester dans ma discipline. Tout simplement, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends bien le médicament? Est-ce que le traitement marche? Où t'en es par rapport à ce problème? Je dois lui rendre des comptes. Et ça me fait beaucoup de bien, parce que c'est elle qui devient gardienne de ma motivation. Donc vous voyez, tout est lié. Oh là là, tout est lié. Il est extraordinaire, tout est lié. Mais en réalité, la discipline et la motivation est une question permanente que vous allez rencontrer systématiquement. Si vous ne faites pas preuve de motivation, et l'exemple type avec ChatGPT, c'est quand j'attaque un projet que j'ai et que je tape dans la partie prompt de ChatGPT, n'importe quoi. C'est-à-dire, vraiment, je lui dis, ouais, je voudrais que tu fasses ça, et puis tiens, je te donne les éléments, et puis démerde-toi. Et puis à la fin, c'est nul. Et je dis, ah, j'en ai marre, c'est nul. Ouais, bah reviens à la discipline. Tu sais très bien faire un prompt qui marche, tu sais que ça va te prendre 10-15 minutes de faire le prompt, mais qu'après il marche. Tu sais que tu as une librairie avec tous les prompts qui sont classés, mais après il marche. Alors dépense le temps au début. C'est là où il faut dépenser toute la motivation. C'est au début, la planification, l'organisation. Et après, ça roule. On a besoin que les choses roulent parce qu'on n'est pas motivé tout le temps. Donc, il faut réussir à garder cette énergie-là. Et pour ça, le mieux, c'est de ne pas confondre la motivation qui demande des grands efforts et des grands investissements et la discipline qui fait faire des tout petits pas chaque jour. Tout simplement. J'espère que le sujet vous aura intéressé, même si j'ai parlé de ChatGPT, je m'en éloigne quand même un petit peu et je reviens un peu sur les fondamentaux du freelancing, de la vie de freelance, ce qu'on essaye d'en faire, de la santé, du fait d'avoir une vie aussi, que c'est très important, et de pouvoir partager ainsi toutes ces choses avec vous. J'espère que tout ça vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt. Je salue toutes les personnes qui m'écoutent et puis qui, ces derniers temps, en fait, ont eu l'occasion de me dire qu'ils m'écoutaient. Sachez que ça me touche beaucoup et que c'est toujours un moment étrange et incroyable. Moi qui me balade seul dans cette forêt et qui parle à mon téléphone, de me rendre compte en fait que ailleurs dans le monde, d'autres personnes m'entendent et m'écoutent et y trouvent de l'intérêt. J'avoue que voilà, moi c'est, ça fait partie de la magie de la vie, comme qui dirait. Et je vais vous laisser parce que j'ai de nouveau perdu mon chien. Voilà, ça fait partie de la vie aussi. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.